décryptage. Marion Kazanov.
Ces dernières années, de nombreux pays se sont lancés dans la course à l'or blanc, le lithium. C'est l'un des métaux les plus légers, métal alcalin, essentiel à la fabrication de puces électroniques que l'on retrouve donc ensuite dans nos voitures, nos portables, nos ordinateurs, bref, les objets du quotidien. Mais depuis quelques mois, le cours de ce minerai s'effondre. Il a perdu près de 80% de sa valeur en un an. Quelles en sont les raisons? Est-ce que ça décourage pour autant les investisseurs? Ce minerai d'avenir a-t-il toujours de l'avenir? On répond à toutes ces questions ce soir dans Décryptage. Bonsoir Emmanuel H.
Bonsoir.
Vous êtes adjoint scientifique à l'IFPEN, l'Institut français du pétrole, énergie nouvelle, également directeur de recherche à l'IRIS. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RFI. Alors d'abord, pour avoir une idée du marché mondial du lithium, Emmanuel H, qui sont les plus gros producteurs au monde?
Alors, les plus gros producteurs au monde, en premier lieu, on va trouver dans l'amont de la chaîne de valeur, on va trouver l'Australie, hein, qui produit plus de 60% du lithium mondial. Après, on va aller du côté de l'Amérique latine, notamment avec le Chili, qui est le deuxième producteur mondial, et puis la Bolivie. Et puis après, on va trouver la Chine. Après, quand on passe au niveau du recyclage, du raffinage du lithium, là, on va trouver la Chine qui va raffiner environ 65 à 70% du lithium mondial. C'est-à-dire qu'en gros, la chaîne de valeur, elle est découpée entre les acteurs, on va dire, de l'amont, donc Australie, Chili, Argentine, et puis la Chine qui, elle, raffine et puis après va les intégrer notamment dans les batteries de véhicules électriques.
Voilà, et donc c'est donc la Chine qui contrôle c'est plutôt elle qui contrôle toute la chaîne de production, qui est leader mondial dans ce sens-là.
Alors, elle va contrôler plutôt l'aval de la chaîne de valeur, c'est-à-dire le raffinage, plus après l'intégration du lithium dans les cellules des batteries, et puis dans les batteries en elles-mêmes, où en gros, elle produit entre 65 et 70% des batteries de véhicules électriques, notamment.
Mmh. On accueille également notre deuxième invité. Bonsoir, Philippe Chalmin.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, historien, professeur à l'Université Paris-Dauphine et spécialiste du marché des matières premières. Philippe Chalmin, pourquoi est-ce que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on s'intéresse au lithium, par exemple en France? Est-ce que on a su que tard qu'il y avait du lithium, ou est-ce que c'était tout simplement un manque d'intérêt?
Pendant longtemps, le lithium n'a pas été considéré comme un produit véritablement stratégique. Et ça n'est qu'avec l'émergence extraordinairement rapide des véhicules électriques qu'on s'est rendu compte que, au moins dans la première génération de batteries pour ces véhicules, le lithium était pour l'instant à peu près incontournable. Alors à ce moment-là, on s'est demandé où est-ce qu'il y en a. Et on n'a pas été les premiers à se demander où il y en avait, parce que les Chinois ont tiré beaucoup plus vite, et c'est en particulier les Chinois qui ont développé la métallurgie du lithium, parce qu'il y a une grande différence entre produire le minerai, dirais-je, le spodumène en particulier en Australie, et puis le transformer en lithium. Et c'est peut-être là, justement, que la dépendance est de loin la plus importante.
Et je le disais en introduction, le cours du lithium est en baisse ces derniers mois. Il a perdu 80% de sa valeur. Emmanuel H, comment expliquer cette chute des cours?
Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que le lithium, c'est un petit marché. Hein, c'est en centaines de millions de tonnes qu'il faut apprécier ce marché, si vous le comparez notamment avec un marché du cuivre qui fait 21 millions de tonnes. Donc là, on est sur un petit marché, en gros comme le marché du cobalt, comme les marchés des terres rares, c'est-à-dire que ce sont des micro-marchés qui n'ont pas une structure notamment afférente au niveau des marchés financiers, comme notamment au London Metal Exchange. Ce sont des marchés, en gros, qui sont ce qu'on appelle des marchés de spécialité. C'est-à-dire qu'ils vont être portés notamment par des innovations, innovations notamment dans le secteur du numérique, dans le secteur du véhicule électrique avec les batteries. Et donc, la baisse de 80% du prix du lithium là, sur la période récente, ce qu'il faut voir, c'est que deux ans plus tôt, le prix du lithium a été multiplié par 10. C'est-à-dire que ce sont des marchés qui sont très volatiles et qui vont notamment réagir à chaque nouvelle information qu'on peut avoir sur le marché, notamment. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'on a des développements de potentiel gisement de lithium dans de nombreuses régions du monde, notamment parce qu'on sait que le lithium, ça va être une des vitamines de la transition bas carbone et de la transition numérique, d'où la volatilité des prix, parce qu'on a des potentiels gisements qui vont s'ouvrir dans les années qui viennent, et puis on a surtout une structure de marché qui n'est pas forcément adéquate pour gérer la volatilité.
Et est-ce qu'il y a aussi, en ce moment, plus d'offres que de demandes? Le Chili, par exemple, compte doubler sa production et veut passer premier. Il y a beaucoup de projets pour aller exploiter le lithium. Est-ce que pour l'instant, l'offre n'est pas excédentaire?
Alors, pour l'instant, il n'y a pas de pénurie de lithium. Hein. On n'a jamais eu de pénurie de lithium, que ce soit du minerai, du spodumène, du lithium de Salar. Il n'y a pas de problème en termes de pénurie pour les industriels. Donc, c'est surtout qu'il y a une perspective. Les acteurs anticipent qu'il y a des développements, comme vous l'avez dit, au Chili. L'Argentine, c'est un très, très gros producteur de lithium qui souhaite aussi monter, j'allais dire, dans la hiérarchie des producteurs. L'Australie reste un gros producteur. Et puis, vous avez tous les gisements qui sont annoncés, notamment en France, au Portugal, en Allemagne. On a du lithium, j'allais dire, dans de nombreuses régions du monde. Et donc, quelque part, le problème du lithium, c'est absolument pas sa criticité géologique, c'est plutôt à quel rythme on va pouvoir avoir ce lithium sur le marché.
Philippe Chalmin, est-ce que ce n'est pas un pari risqué aussi pour les pays de se lancer dans des exploitations de matières premières? Est-ce que ça ne risque pas de renforcer une dépendance aux énergies fossiles? Par exemple, pour le Chili, qui se concentre vraiment là-dessus et qui produit déjà, par exemple, beaucoup de cuivre.
Écoutez, de toute manière, il ne faut pas se leurrer. La transition énergétique va impliquer une augmentation considérable des besoins d'un certain nombre de métaux. On se focalise tous sur le lithium, le cobalt, etc. Mais à la limite, on peut presque se dire qu'il est tout à fait possible que dans, une vingtaine d'années, les technologies aient tellement évolué que l'on n'ait plus besoin de lithium pour les batteries. On sera peut-être passé d'ailleurs au moteur à combustion, en utilisant l'hydrogène, etc. Mais par contre, dans une transition énergétique basée sur l'électricité, nous aurons énormément besoin de cuivre. Et à la limite, le cuivre est à mon sens beaucoup plus stratégique aujourd'hui que ne peut l'être le lithium. Alors ceci étant, c'est vrai que là, on a connu une bulle sur le marché du lithium, parce que tout le monde s'est dit, ça va être, on va en avoir besoin immédiatement, il faut du temps pour construire des usines de batteries, des gigafactories, etc. Et donc, mais on sait que pour les 10 ans à venir au moins, la demande est là, elle va être croissante, il y a de fortes chances que les prix remontent. Emmanuel H. a totalement raison de signaler le caractère un peu opaque du marché. Le lithium, le carbonate de lithium est coté sur des marchés chinois dont la transparence n'est pas quand même la plus grande qualité. Donc là, on est tombé très bas. Ça va probablement remonter. Et il est assez logique qu'en France, en Europe au sens large, on n'a pas beaucoup de gisements potentiels de lithium, il y en a quelques-uns. Le plus gros en Serbie, pour l'instant, est à l'arrêt parce que les autorités, les habitants se sont rebellés contre l'idée d'avoir une mine de lithium. Bon, il semblerait qu'en France, nous ayons un gisement de lithium en dessous d'une carrière de kaolin dans l'Allier. Est-ce qu'il faut l'exploiter? Je remarque simplement que ce sont les mêmes qui se font les chantres de la transition énergétique et qui hurlent contre les énergies fossiles et qui s'indignent que l'on puisse ouvrir une mine en France, que ce soit de lithium ou d'autres choses d'ailleurs.
Alors, je vous parlais de cette mine, ce projet de mine de lithium dans l'Allier. Je voudrais qu'on écoute ce responsable de l'entreprise française Imerys qui prévoit d'ouvrir justement cette mine en 2028.
Ce site permettrait aujourd'hui, en l'état de nos connaissances, de produire 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium chaque année sur au moins 25 ans. 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium, ça ne parle pas beaucoup, mais en réalité, ça correspond aux besoins en lithium de 700 000 véhicules électriques par an. Et 700 000 véhicules électriques par an, c'est à peu près la moitié de la production française.
Et voilà, c'est l'extrait d'un grand reportage de RFI appelé « Europe cherche lithium désespérément ». Donc on voit que cette mine pourrait couvrir une grande demande dans le pays. Alors est-ce que pour autant, Emmanuel Hache, la demande en véhicules électriques va suivre ? Vous avez parlé tous les deux du marché qui est volatile, que peut-être le cuivre, il vaut mieux investir dans le cuivre. Alors en gros, est-ce que l'Europe ne s'y met-elle pas trop tard en fait dans cette exploitation ?
Alors, est-ce que l'Europe s'y met trop tard ? Non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, notamment, de prendre en considération que notre monde est basé sur les matières premières et que nos transitions seront métalliques. Ça, c'est quelque chose de très important. Et l'Europe a plutôt bien réagi avec le règlement européen sur les matériaux critiques, en édictant notamment des objectifs, 10% d'extraction, 50% du raffinage, et puis 25% du recyclage sur le sol européen. Après, je crois qu'il y a deux manières de voir cette ouverture de mine en France. La première, c'est de se dire, eh bien, en ouvrant une mine en France, on va pouvoir, j'allais dire, regarder la transition en face et arrêter de se voiler la face par rapport à nos consommations qui sont largement importées. Et quelque part, on a délocalisé à la fois nos impacts environnementaux et puis on a laissé finalement aux pays émergents, aux producteurs, le soin de nous approvisionner. Ça, c'est une première manière de voir. Après, une deuxième manière de voir, et là, je vais reprendre en fait les mots du directeur d'Imerys, lorsqu'il nous dit qu'on va pouvoir alimenter entre 700 000 et 800 000 véhicules électriques. Moi, j'ai presque envie de dire on pourrait en alimenter le double si on réduit la puissance de la batterie et si on prend en compte notamment les usages, c'est-à-dire quel type de véhicule électrique on veut avoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut tous avoir des gros SUV ou est-ce qu'on veut rouler avec des petites automobiles électriques ? Et donc là, il y a toute une question et je pense que notamment la question de l'acceptation, parce que c'est véritablement le nœud du problème, cette mine en France, quelque part, c'est le point zéro de est-ce qu'on va pouvoir réindustrialiser la France ou est-ce qu'on va pouvoir remettre un tout petit peu de mine en France ? Et donc derrière, j'allais dire, ce symbole minier, il y a vraiment toute la question de l'acceptation et de est-ce qu'on va regarder en face cette transition.
Oui, voilà. Et selon l'AIE, la production d'ailleurs d'un véhicule électrique requiert, pour donner des chiffres, 6 fois plus de minerais qu'un véhicule thermique. Donc la transition énergétique, ça veut dire aussi consommer plus de minerais. Philippe Chalmin, est-ce que cette exploitation de lithium peut vraiment être propre ? Est-ce qu'on peut parler de mine propre ?
Écoutez, la France, de ce point de vue-là, pourrait donner l'exemple. Nous avions eu d'ailleurs un projet, alors ce n'était pas du lithium, c'était de l'or en Guyane, le projet de Montagne d'Or. Et justement, le pari était à l'époque de faire une mine propre. Il est clair qu'en France, avec toutes les réglementations que nous pouvons avoir, tous les niveaux de contrôle, toutes les capacités scientifiques aussi, s'il est un pays où on peut faire une mine propre, c'est bien la France. Alors ensuite, il faut bien se rendre compte que pour les voisins, de toute façon, appelons un chat, cela sera quand même une nuisance. Et c'est le vieux principe « NIMBY, not in my backyard ». Si on vous propose d'ouvrir une mine au bout de votre jardin, vous n'en serez pas très très heureuse. Alors en plus, je rappelle que derrière la mine, il faudra aussi qu'il y ait, et d'ailleurs c'est prévu, une usine métallurgique, alors dans des régions d'ailleurs qui ont sacrément besoin de se réindustrialiser. Mais là aussi, une usine, ça n'est pas zéro nuisance. Et ça, malheureusement, il faut le comprendre, ou bien... Eh bien, c'est ce que nous avons fait jusque-là. Emmanuel Hache connaît, par exemple, le dossier des terres rares. Eh bien, nous étions des producteurs de terres rares en France autrefois et nous avons délocalisé nos problèmes environnementaux. Aujourd'hui, c'est en Chine que l'on fait des terres rares. Donc, il ne faut pas se voiler la face de ce point de vue-là. Une mine, elle n'est jamais totalement neutre du point de vue environnemental.
Mais quels sont précisément les risques pour la population, ceux qui habitent à côté ?
Bah, ce sont des nuisances qui peuvent être d'abord des terrains qui seront probablement occupés, élargis. Vous pouvez imaginer. Je ne pense pas que les nuisances environnementales seront gravissimes, mais je comprends tout à fait les habitants du coin qui voient moins une opportunité économique qu'un changement dans leur univers. Et je comprends que cela puisse faire peur. Mais Emmanuel H. l'a très bien dit, la transition énergétique, elle sera consommatrice de métaux. Et même si nous nous contentons tous d'avoir des toutes petites voitures et de ne pas avoir des SUV électriques, on aura, même si nous imaginons que dans l'économie circulaire, on pourra récupérer au bout d'un certain temps le lithium des batteries et qu'on pourra faire aujourd'hui, pour vous donner une idée, sur nos voitures à moteur thermique, les batteries au plomb, eh bien deux tiers du plomb consommé dans le monde, c'est du plomb de récupération. On arrivera probablement à des chiffres peut-être pas aussi importants, mais relativement élevés, dans un certain temps pour le lithium. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il est légitime de développer une mine de lithium en France ? Moi, il me semble que la réponse est positive.
Emmanuel H., est-ce que le lithium, pour vous, c'est vraiment le métal essentiel pour aider à la transition énergétique ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens ? On parle aussi en ce moment des batteries de sodium qui seraient moins chères à produire. Est-ce que on peut se diriger vers là aussi ?
Alors, je vais répondre de deux manières. Déjà, votre question, est-ce que le lithium, c'est le métal de la transition ? Moi, je suis comme Philippe Chalmin. Le métal de la transition, c'est le cuivre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le cuivre, vous allez en avoir besoin partout. Tout simplement parce que pour faire des connexions électriques, pour faire de la génération, pour faire de la distribution, il vous faut du cuivre. Il vous faut du cuivre dans le transport. Un véhicule thermique, c'est 20 kg de cuivre. Un véhicule hybride, c'est 40. Un véhicule électrique, c'est 80. À chaque fois qu'on va substituer un véhicule thermique par un véhicule électrique, on va multiplier par 4 la facture en cuivre. Et donc, c'est le métal le plus important de la transition. Après, concernant les batteries, et ça explique aussi la volatilité, notamment d'un produit comme le lithium, on a différentes chimies de batteries. On a des batteries donc NMC, nickel manganèse cobalt, avec du lithium. On a des batteries LFP, lithium fer phosphate. Et on a effectivement des batteries sodium-ion. Et là, quelque part, si on va vers ce type de batterie, on va vers moins de dépendance au lithium. Le problème, c'est pour quelle autonomie ? À l'heure actuelle, l'acceptation du véhicule électrique se fait avec l'autonomie. Et donc, ça requiert notamment des chimies de batterie où on a beaucoup de lithium et beaucoup de cobalt. Et donc, c'est très important aujourd'hui, notamment dans cette phase où il y a un décollage du véhicule électrique, de rassurer notamment sur l'autonomie du véhicule. Et ça, c'est fondamental.
On a parlé de l'exploitation dans plusieurs continents, en Amérique latine, en Asie. Le continent africain, lui, pourrait multiplier par 30 sa production d'ici 2027. Philippe Chalmin, avec des projets en cours au Zimbabwe, en Namibie, en RDC, au Mali. Est-ce que le continent a une part importante à jouer dans la production ?
Oui, même si pour l'instant, au moins en ce qui concerne le lithium, on est quand même concentré sur le triangle du lithium en Amérique latine et puis l'Australie. Mais effectivement, il y a des potentialités non négligeables en Afrique. De toute façon, comme cela a été dit, le lithium en tant que ressource minière, que ce soit celui des salars, que ce soit les minerais, le lithium ne pose aucun problème en termes de réserves, en termes de ressources.
Et on va conclure là-dessus.
Il y a même du lithium dans l'eau de mer, hein, à un faible niveau, mais on pourrait extraire du lithium de l'eau de mer.
Oui, avec des projets, notamment en France, de forage, de travaux dans les océans. Et ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Chalmin, économiste, historien, professeur à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste du marché des matières premières. Et également, merci à vous Emmanuel H, adjoint scientifique à l'IFP Énergie Nouvelle, directeur de recherche à l'IRIS. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation sur RFI. Et merci également à Fabrice Violet qui était à la réalisation ce soir.